pose la pierre. Jean 8, 1, 12. Juste avant ce chapitre, le chapitre 7 se termine en notant qu'il y avait un désaccord sur la question de savoir si Jésus était le Christ, et les autorités l'ont rejeté. Ensuite, il s'est rendu au mont des Oliviers, où, d'après d'autres références, nous pouvons dire qu'il est allé pour prier. Le lendemain, il est revenu au temple, au même endroit où il avait été rejeté la veille par les autorités. Il n'y a pas seulement été rejeté, il voulait le tuer là-bas. Qu'est-ce qui pousserait un homme à retourner vers les mêmes personnes qui vous ont rejeté et veulent vous tuer? Cela nous renseigne sur la priorité de Jésus quant à la raison de sa venue dans ce monde. Et cela nous explique ses paroles dans Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ainsi, pour lui, accomplir la tâche était plus important que sa propre vie. 3. Les scribes et les pharisiens amèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu, 4. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Puis, au verset 3, ils amenèrent à lui une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et ils la placèrent au milieu du peuple dans le temple. Ils ne l'ont pas appelée à part pour demander son avis. Ils l'ont mise au milieu des gens dans le temple. C'est comme si vous rencontriez un membre de l'Église en train de mal se comporter et que vous vouliez en parler au pasteur Clint. Vous arrivez et vous vous rendez compte qu'une étude biblique est en cours. Au lieu d'attendre la fin pour lui en parler en privé, vous levez simplement la main pendant que le pasteur Clint enseigne et dites « Oh, j'ai quelque chose à dire. Ce n'est pas en rapport avec ce que vous enseignez, mais je pense que c'est un sujet urgent que tout le monde doit entendre. Alors mettons l'enseignement en pause pour l'instant. » Et ils disent « Nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. » J'aime la façon dont la version King James le formule. Au verset 4, ils lui disent « Maître, cette femme a été prise en adultère, en plein acte. » En plein acte. Cela signifie qu'elle a été prise la main dans le sac. Prise sur le fait, en 3D. Dans notre monde d'aujourd'hui, cela se retrouverait probablement en direct sur n'importe quelle plateforme de réseau social et ferait particulièrement le buzz sur Twitter. Autrement dit, ils disent à Jésus que la preuve est là. Maintenant, chaque fois que je lis ce verset en particulier, la question que je me pose est « Où est l'homme ?» En préparant cet enseignement, je me suis demandé en plaisantant si je devais changer le titre en « Où est l'homme ?» Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a surpris une seule personne en plein adultère. Cela n'a pas de sens. 5. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? 6. Ils dirent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Ensuite, ils citèrent la Bible pour montrer qu'ils étaient des étudiants des Écritures. Voyons maintenant ce que Moïse a réellement dit à ce sujet. Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée à un mari, ils mourront tous deux. L'homme qui s'est couché avec la femme et la femme. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre, avec la femme de son prochain, l'adultère et l'adultère seront tous deux mis à mort. La loi dit que l'homme et la femme doivent être mis à mort. Alors, où est l'homme? Et avant même que cette loi puisse être appliquée, il doit y avoir deux témoins ou plus à cet événement. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute ou un péché. Quel que soit le péché qu'il ait commis, une affaire ne pourra être établie que sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins. Et ils ont déjà rempli cette condition. Donc la prochaine étape est de mettre en application la loi de la lapidation. Ainsi, maintenant, toutes les exigences sont remplies et cette femme doit faire face à la mort. Cependant, au verset 6, il est dit qu'il mettait Jésus à l'épreuve pour voir ce qu'il dirait. À cette époque, les Juifs étaient sous l'Empire romain, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Seul le gouvernement romain avait ce pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont arrêté Jésus avant sa crucifixion, ils ont dû l'envoyer au grand prêtre. Et comme le grand prêtre n'avait pas le pouvoir de le crucifier, il l'a envoyé à Pilate. Ce que les Juifs faisaient ici, c'était donc tendre un piège à Jésus. Car s'ils disaient de ne pas la lapider, ils soutenaient ceux qui enfreignent la loi de Moïse, ce qui n'est pas conforme à ce qu'il a dit, à savoir qu'il est venu accomplir la loi. S'ils disaient de la crucifier, ils faisaient ce que seuls les Romains étaient autorisés à faire, désobéissant ainsi au gouvernement romain. Verset 7. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » 8. Et s'étant de nouveau penché, il écrivait sur la terre. 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils continuaient à l'interroger. Et il se releva et dit, « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Il se pencha de nouveau et continua d'écrire. Nous ne savons pas ce qu'il écrivait. Il n'a rien dit qui puisse désobéir à Moïse ou aux Romains. Lorsqu'ils entendirent cela, ils s'en allèrent à commencer par les plus âgés. Mon frère aîné, en m'expliquant cela auparavant, a dit que la raison pour laquelle les plus âgés sont partis les premiers, c'est probablement parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient les plus grands péchés. Maintenant, cela signifie que les accusateurs eux-mêmes ne sont pas sans péché. Ainsi, des hommes pécheurs se sont réunis pour lapider une autre personne qu'ils ont surprise en train de pécher, simplement pour trouver un moyen de mettre Jésus à l'épreuve. Cela montre jusqu'où l'être humain peut aller juste pour vouloir avoir raison. Jésus n'a dit à personne de partir. C'est eux-mêmes qui sont partis. Ensuite, Jésus s'adresse à la femme. Verset 10. Jésus se releva et lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» 11. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Et c'est la première fois que la femme est invitée à parler dans toute cette affaire. Et la seule personne qui lui a donné cette chance n'était pas les accusateurs, c'était Jésus. Et il ne l'a pas fait devant les accusateurs pour opposer ses paroles aux leurs. Jésus a demandé, « Personne ne t'a condamné ?» Elle a répondu, « Personne, Seigneur. » Elle pense probablement, ces hommes sont partis parce qu'ils ont du péché, Jésus n'a pas de péché, et il est probablement en position de me condamner. Mais voici la réponse de Jésus. Moi non plus je ne te condamne pas. Et cela confirme ce que Jésus a dit, qu'il n'est pas venu pour nous accuser. Puis il ajouta, va, et désormais ne pêche plus. Maintenant, pour revenir à ce passage, je pense qu'un des principaux problèmes ici réside dans la façon dont il voyait la femme. C'était une question d'identité. Il pense que la femme mérite de mourir pour le péché, mais pas l'homme. Il ne se souciait pas de la personne avec qui elle était impliquée. Il voulait simplement utiliser la femme pour prouver un point. Et la plupart du temps, notre façon de traiter les gens dépend de la manière dont nous les voyons. L'identité que nous attribuons aux gens détermine la façon dont nous les traitons. Ainsi, au-delà de tout le reste, un des problèmes ici était la façon dont ils identifiaient la femme. Parfois nous essayons d'accuser et de condamner les gens pour les mêmes choses dont nous avons été sauvés. Parfois notre façon de réagir face à un incroyant, un frère ou une sœur qui est tombée dans le péché dépend surtout de l'étiquette que nous leur collons. Que pensez-vous qu'il serait arrivé à cette femme si elle n'avait pas rencontré Jésus au temple, mais avait rencontré les chefs et les autorités? Il l'aurait probablement envoyé devant le Sanhédrin, qui l'aurait sans doute livré aux Romains, et il se peut qu'elle aurait été condamnée à mort. Que pensez-vous qu'il adviendra de ce frère ou de cette sœur que vous surprenez dans le péché, ou qui vient vous voir en premier à propos d'un péché? Qu'en est-il de cet incroyant? La réponse de Jésus dans cette affaire nous a fait réaliser que non seulement la femme avait péché et méritait d'être condamnée, mais aussi ses accusateurs. Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit dans l'Épître aux Romains que tous ont péché et que tous ont besoin d'un sauveur, y compris les accusateurs. Et c'est pourquoi sa déclaration suivante dans le verset suivant est celle-ci. Jésus leur adressa de nouveau la parole et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cela montre que le monde, sans Jésus, est plongé dans les ténèbres. Les accusateurs pensaient qu'ils marchaient dans la lumière, mais en réalité, ils étaient dans les ténèbres. Tant les accusateurs que l'accusé ont besoin d'un sauveur. Maintenant, lorsque les pharisiens voyaient une femme qui méritait la mort, Jésus voyait une mission ou une occasion de toucher les perdus. Lorsque les pharisiens voyaient quelqu'un qui méritait la mort, Jésus voyait quelqu'un qui avait besoin d'un sauveur. Et cela nous donne un exemple à suivre. Cette personne vivant dans le péché, ou cet incroyant dans notre école, notre lieu de travail ou notre foyer, est une mission pour nous. Ce ne sont pas des personnes sur qui nous collons une étiquette, comme les pharisiens. Nous les voyons comme une mission à accomplir. Alors, voici mes questions pour nous tous. 1. Comment te vois-tu? 2. Comment vois-tu un autre croyant qui est tombé? 3. Comment vois-tu l'incroyant? 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes d'abord faits nouvelles créatures, après avoir cru en ce que Christ a fait pour nous. De la même manière, il nous est confié le ministère de la réconciliation, et non celui de l'accusation. Cela signifie que je dois l'Évangile à l'incroyant. Je ne vois pas les gens avec des étiquettes. Et si tu as une pierre que tu portes depuis toutes ces années, attendant juste l'occasion de la lancer sur quelqu'un, sache simplement que de la même façon que cette personne ne mérite pas ton pardon, nous ne méritions pas non plus ce que Christ a fait pour nous. Il est temps simplement de jeter cette pierre. Je me vois comme une nouvelle créature. Je considère ce frère ou cette sœur, ainsi que l'incroyant là-dehors, comme ma mission.